exacte image du monde parfois extravagant de la politique, Jacques Chirac aura été toute sa vie près des gens, fortement attaché à des valeurs provinciales. Il me semblait à Paris un déraciné. Il est encore de passage. C'était en 1977.
Jacques Chirac, un nom qui sonne déjà dur, qui cogne fort. Alors, député, ministre, premier ministre, maire de Paris, que manque-t-il à votre grandeur ?
Je ne crois pas que Jacques Chirac soit un nom qui sonne dur.
Ah, Chirac !
Oui, c'est un nom limousin, traditionnel, et qui a, dans sa terminaison, tout le coulant de l'eau qu'il évoque. Ce qui est le contraire de la dureté, et ce qui est au contraire synonyme de limpidité. Je ne voudrais en tous les cas pas qu'il cognât fort. Et je vais vous dire, vous me dites que maire, député, et vous me demandez ce qu'il me manque, je vous dirai très franchement, à mes yeux, pas grand-chose. Ce que je souhaite avoir, c'est la force nécessaire pour poursuivre l'action que je mène, et notamment dans les prochains mois, car elle sera rude, et je ne crois pas en manquer.
Vous avez donc la sérénité des forts.
Enfin, je suis assez serein de nature, oui, je ne me sens pas du tout complexé.
Mais des forts ?
Vous savez, ça ne veut pas dire grand-chose, des forts.
Ça veut tout dire.
Oui, enfin, vous l'affirmez, mais c'est une affirmation facile. Il n'y a pas de gens qui soient réellement forts dans tous les domaines. C'est une image plus qu'une réalité. Il faut avoir une certaine force de caractère pour faire de la politique, pour mener le combat politique, c'est certain. Et je m'efforce d'avoir cette force. C'est tout ce qu'on peut dire.
Êtes-vous sensible à tout ce qui est dit, à tout ce qui est écrit ? Ai-je de l'air qu'on dit beaucoup et qu'on écrit beaucoup à votre sujet ?
Vous savez, quand on est un homme politique, il faut s'attendre à beaucoup d'attaques, comme d'ailleurs à beaucoup de flagorneries. Je suis actuellement au stade...
Vous préférez les attaques, sans doute.
Oui, je suis d'ailleurs actuellement au stade où ce sont surtout les attaques qui se développent. Et je vois effectivement, vous avez raison de le souligner, sortir un certain nombre de livres dont l'objectif, plus ou moins bien atteint, est de caricaturer ma personne, mon action, de raconter sur ma vie des choses d'ailleurs généralement fausses et même parfois ridicules. Mais ceci est, je dirais, un peu la règle du jeu. Et la seule chose qui m'intéresserait de savoir dans ce domaine, ce n'est pas tellement la motivation de leurs auteurs, qui sont pour certains tout à fait médiocres, pour d'autres qui ont un certain talent, mais qui sont tous désireux de me nuire. Ce que je voudrais surtout savoir lorsque je vois les maisons d'édition qui prennent ce genre de livres, c'est l'origine des fonds qui ont permis de faire cette opération. Hélas, je ne le sais pas.
Peut-être êtes-vous au plan de l'édition, une bonne affaire commerciale ?
Écoutez, je n'ai pas le sentiment d'être une bonne affaire. J'ai été très sollicité depuis plusieurs années pour écrire des livres et pour les donner. Beaucoup de maisons d'édition, et même certaines parmi les plus grandes, m'ont même proposé, je dirais, de signer simplement un livre qui aurait été écrit par d'autres, et que d'ailleurs, je gardais le pouvoir, me disait-on très aimablement, de modifier dans le détail si cela m'intéressait. Je n'ai jamais accepter ce genre d'exercice, j'écrirai peut-être un jour quelque chose, mais ce ne sera peut-être pas très brillant, mais ce sera de moi. Et donc, je ne me suis pas prêté à ce genre d'exercice. Je ne suis donc pas une affaire pour les maisons d'édition, en tous les cas, pas jusqu'ici.
Alors là, j'ai devant mes yeux deux livres. Le premier, Jacques Chirac ou l'anti-Giscard, écrit par Gilbert Comte, qui paraît chez Régine Desforges.
C'est une maison d'édition spécialisée dans l'érotisme en général.
Il n'y est pas question quand même d'érotisme à votre sujet.
Ah, c'est un coup de chance.
Le second, Jacques Chirac ou la fringale du pouvoir, celui-ci est écrit par Henri Deligny.
Oui, on me dit qu'il est mort. Oui, on me dit qu'il est mortellement ennuyeux. Et là, c'est une maison d'édition spéciale.
Vous avez quand même lu.
Non, je vais vous avouer très franchement, je n'ai lu ni l'un ni l'autre. Le deuxième est publié dans une maison d'édition spécialisée dans les livres à scandale. Vous voyez que tout ceci ne représente pas
souvent à compte
des choses, et souvent à compte d'auteur, oui. Et c'est là où ma question de tout à l'heure prend toute sa valeur, d'où viennent les fonds qui permettent de faire ce genre d'opération, et surtout de leur donner, je pense au deuxième que vous venez de citer, l'extraordinaire et fort coûteuse publicité dans la presse dont ils ont été l'objet, qui n'est certainement pas dans les moyens ni de cette malheureuse maison d'édition, ni de son auteur. Enfin, peu importe ce point, je n'ai lu ni l'un ni l'autre. Le premier, m'a-t-on dit, est très bien écrit sur le plan du style et de la plume. Le deuxième, m'a-t-on dit également, est mortellement ennuyeux. Je peux dire, en tous les cas, en ce qui concerne le deuxième, que les faits qui y sont relatés sont généralement totalement faux et dépourvus de tout fondement, d'après ce qui m'en a été rapporté. Mais je n'ai pas eu le temps, ni à vrai dire la curiosité un peu malsaine de les lire.
C'est un bon titre, La fringale du pouvoir ?
Non,
c'est mieux que l'anti-Giscard.
Je crois que, vous savez, ça fait partie de ces poncifs un peu médiocres et qui prouvent surtout un manque d'imagination, car c'est facile. Je veux dire, et ça ne veut pas dire grand-chose.
Il faut s'en tenir aux lignes qu'ils ont écrites, et peut-être sont-elles là pour vous résumer. Chirac enthousiasme les uns, alarme les autres, mais suscite chez tous l'habituelle question qu'inspire un météore : jusqu'où montera-t-il ? Alors je me demande si vous le savez vraiment, vous, Jacques Chirac.
Chancel, c'est une question que je ne me pose pas. J'agis en fonction de motivations qui ne sont pas celles-là. On m'a déjà demandé quel était le motif, ou comme disent certains de vos confrères, toujours habiles à formuler des questions, qu'est-ce qui vous fait courir ? Eh bien, je vais vous dire, c'est l'ambition. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est l'ambition, mais pas celle que l'on imagine.
Pas pour vous.
Oui, enfin, c'est aussi pour moi. Mais ce n'est pas celle qu'on imagine, et ce n'est pas celle qui ressort des pauvres livres que vous avez tout à l'heure évoqués. Oui. Mais vous avez eu raison de les mentionner. Ce n'est pas celle-là. Parce que si j'avais ce type d'ambition, je serais resté Premier ministre. Je n'aurais pas pris moi-même la décision de mettre fin à mes fonctions. Après tout, être Premier ministre à 42 ou 43 ans, c'est une réussite incontestable pour un homme qui situe à ce niveau les critères de réussite. Et donc j'aurais attendu tranquillement, en essayant d'assumer au mieux mes responsabilités, les échéances. Donc ce n'est pas ce type d'ambition que j'ai. J'ai l'ambition de servir à quelque chose. Quand j'étais plus jeune et que la guerre d'Algérie sévissait, j'ai souhaité partir en Algérie parce que j'avais le sentiment qu'à ce moment-là, c'était une manière de servir et que je ne voyais pas pourquoi je resterais, comme la plupart de mes camarades de l'école d'administration, dans des bureaux parisiens, au service de la paperasserie. C'est un peu le même sentiment. C'est aussi une ambition personnelle que de vouloir servir. C'est peut-être également une forme d'égoïsme. Mais en tous les cas, elle est un peu plus noble que celle que l'on me prête en général.
Il est vrai que l'on écrit beaucoup de choses sur les hommes qui sont en première ligne. On pose des tas de questions. Chirac est-il un homme ou est-il le produit d'un système ? Et j'imagine qu'à certains moments, toutes ces questions doivent terriblement vous agacer. Même si vous faites semblant de les
ignorer. Non, j'en ai tellement pris l'habitude qu'elles ne m'agacent pas du tout. J'ai un peu tendance à les ignorer. Encore que elles présentent tout de même un avantage. Car il n'y a pas de questions, lorsqu'elles sont répétées, qui soient dépourvues de fondement. Lorsqu'il s'agit d'une simple affirmation malveillante, je dirais que cela n'a aucune importance. Il s'agit d'un sentiment personnel exprimé par quelqu'un qui ne vous aime pas. Cela est négligeable et, selon la formulation, cela peut même être dérisoire. Je le tiens pour tel et je ne m'en occupe pas. En revanche, lorsqu'il y a un faisceau de questions qui se posent ou qui sont posées, et notamment lorsqu'elles sont posées par un nombre important de gens, je dirais par l'opinion publique, et certaines de celles que vous évoquez le sont, alors elles ne peuvent pas agacer, il faut en tenir compte. Car si on se les pose, c'est qu'il y a raison de se les poser, c'est que le comportement de l'homme politique est tel, même s'il a le sentiment que c'est injuste, que ces questions sont suscitées par son comportement. Alors, elles méritent réflexion.
Jacques Chirac, vous avez employé ces derniers jours des mots qui vont loin, qui font mouche. Par exemple, vous êtes déférent à l'égard du président, vous êtes loyal à l'égard des alliés, et vous êtes vous-même à l'égard du pays.
Je ne parlais pas de moi, je parlais de mon mouvement.
Oui, mais enfin, vous êtes dans votre mouvement.
Ah, certes.
Alors, on peut employer ces mots qui vous concernent directement. Alors, vous êtes déférent et vous êtes différent.
Oui, le jeu de mots est un peu facile.
Vous l'avez
mais
fait.
Il y a du vrai.
Il est à vous, ce jeu de mots.
Mais il y a du vrai. Nous avons effectivement tenté de situer notre action politique pour qu'elle soit comprise. Nous sommes un mouvement politique qui est avant tout respectueux des institutions, puisqu'il les a voulues. Il a participé largement en leur temps à les créer, en soutenant l'action du général de Gaulle, et qu'il a été en quelque sorte lui-même fondé pour les défendre. Le président de la République incarne ces institutions, il en incarne même la pérennité, en quelque sorte, et par conséquent, il est naturel que nous soyons déférents à l'égard du président de la République. Il n'y a sur ce point aucune réserve dans notre comportement. Quelles que soient les réactions de ceux qui voudraient à tout prix essayer de créer des difficultés entre le président de la République et le mouvement gaulliste. Nous sommes loyaux à l'égard de nos partenaires de la majorité, c'est la moindre des choses, je dirais, puisque nous appartenons à une même majorité, que nous avons en commun signé les mêmes objectifs de société dans le cadre de ce manifeste, que nous nous présentons ensemble et la main dans la main aux mêmes élections, la loyauté va de soi. Même si l'émulation, si la situation politique ou conjoncturelle, si quelques problèmes de personnes ici ou là peuvent créer quelques crispations, quelques difficultés. Mais le mouvement gaulliste a toujours eu une certaine originalité, je dirais à la fois politique et sociologique, et qui tient à son inspiration, qui tient au fait que ce n'est pas un parti à proprement parler, mais qu'il se veut un rassemblement, il y a plus qu'une nuance, que l'on retrouve d'ailleurs dans ses structures et dans son comportement. Et il n'a pas du tout l'intention de changer, ni de changer de vocation, ni de changer de comportement. Il correspond à une certaine sensibilité de l'opinion publique, et donc il s'affirme comme tel. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que vis-à-vis du pays, nous étions et que nous resterions nous-mêmes.
Pardonnez-moi, mais vous en êtes arrivé à un point où vous êtes beaucoup plus chiracien que gaulliste.
Vous connaissez, ça c'est également une affirmation. Il faudrait d'abord savoir, qu'est-ce que le gaullisme ?
En 77.
En 77. Et je dirais, de façon permanente, le gaullisme n'est pas lié à la personne du général de Gaulle. Nous n'avons jamais dit, c'eût été outrecuidant, que nous étions les héritiers du général de Gaulle. Je dirais par essence et par vocation, le seul héritier que nous reconnaissons au général de Gaulle, c'est le peuple français tout entier. Puisque tout ce qui a inspiré le général de Gaulle dans son action, dans sa pensée, dans sa réflexion, c'est d'abord et avant tout le respect fondamental de la souveraineté populaire. Donc nous n'avons pas du tout la prétention, naturellement, et nous n'avons jamais dit que nous étions ses héritiers. Nous prétendons, et ce n'est pas facile, être ses disciples. Il y a plus qu'une nuance. Ensuite, je vous dirais que le gaullisme, bien au-delà de la personne du général de Gaulle, est un sentiment qui a toujours existé dans l'histoire de France. Et il a pris différentes formes. C'est la réaction de ceux qui se rassemblent pour dire non dans la difficulté, et qui refusent le compromis. On les retrouve sous diverses formes, depuis les origines jusqu'à notre histoire contemporaine, et on les retrouvera toujours.
Oui, mais devez-vous avoir des références ? Vous êtes installé de telle manière que vous pourriez vous passer de ces références.
Non, on est toujours, les références sont toujours nécessaires. La projection d'une action dans l'avenir ne se fait pas de manière absolue et désincarnée. Il faut avoir des références de façon à pouvoir asseoir sa réflexion sur une certaine expérience. Et à ce titre, nous sommes, pour ce qui nous concerne, conscients du fait que nous avons été formés par la pensée du général de Gaulle, par le message qu'il nous a apporté, qui est un message de dignité, de solidarité, de refus. Et nous y sommes profondément attachés. C'est la raison pour laquelle nous disons et nous prétendons être un mouvement disciple de l'action du général de Gaulle, un mouvement gaulliste.
Jacques Chirac, êtes-vous inquiet pour les mois qui arrivent ?
Naturellement, je suis inquiet.
Très inquiet, ou c'est un jeu de l'inquiétude ?
Non, d'abord, on ne joue pas dans ce domaine. Lorsqu'il s'agit de l'avenir de la France, et qu'on a une responsabilité politique, qu'on a reçu un mandat de la part de ses concitoyens, on ne joue pas. On peut jouer lorsqu'on est un observateur, un critique, on ne peut pas jouer lorsqu'on est un homme politique, car on assume une responsabilité. Et donc l'inquiétude n'est pas un jeu, c'est une inquiétude réelle. Cette inquiétude est la suivante. Dans 3 mois, la France va se prononcer sur le plan électoral. Elle a la possibilité de voter soit pour l'opposition, soit pour la majorité. L'opposition n'est pas mauvaise en soi. Et on pourrait très bien imaginer des circonstances où il serait souhaitable pour la France de changer les hommes au pouvoir, de changer de système, de changer d'équipe.
C'est souhaitable ?
Cela pourrait l'être. L'alternance est un facteur de promotion et d'évolution, toujours. Ou presque toujours. Car au bout d'un certain temps, il y a les habitudes, les routines, il y a l'usure du pouvoir. Ce n'est pas une image, l'usure du pouvoir est une réalité. Mais en France, les choses se présentent de façon un peu différente. Car les structures de l'opposition sont telles qu'il est manifeste qu'elle ne peut pas gouverner ce pays ensemble. Je veux dire que les deux principaux partis qui la composent ne peuvent pas gouverner ensemble. Et d'ailleurs, tout ce qui se passe aujourd'hui le démontre amplement. Et donc, si d'aventure, et le mot est bien choisi, si d'aventure l'opposition gagnait, la France se trouverait déchirée entre les conceptions et les ambitions d'une part du Parti communiste et d'autre part du Parti socialiste, confrontée avec la nécessité de remplir tous les engagements que l'un et l'autre ont pris de façon extraordinairement démagogique et impossible à tenir à l'égard de l'opinion publique, et que tout ceci ne pourrait se traduire très rapidement que par de très graves difficultés pour la France, qui auraient pour résultat d'une part d'abaisser notre pays dans le monde, et très rapidement, et d'autre part de créer d'immenses difficultés pour les Françaises et les Français. Et c'est pour cela, c'est une raison conjoncturelle qui fait que je dis que l'alternance aujourd'hui, le Parti communiste et le Parti socialiste étant ce qu'ils sont, n'est pas souhaitable pour la France et dangereuse pour la France, et c'est pourquoi je suis inquiet.
On comprend vos inquiétudes, mais pensez-vous tout de même que vous serez vainqueur en mars ?
Il est tout à fait aujourd'hui impossible de le dire.
On ne peut partir que gagnant lorsqu'on est un homme politique.
Oui, et tout spécialement lorsqu'on est un gaulliste. Quand on part au combat, on ne part pas avec l'idée qu'on pourrait être battu. Et pour ne rien vous cacher, cette idée ne m'effleure pas l'esprit dans mon action. Néanmoins, lorsque je réfléchis, je constate qu'il y a un risque, et un risque sérieux, qui d'ailleurs me conduit à, non pas à la conclusion d'une démobilisation, c'est tout à fait le contraire, mais à la conclusion d'un effort supplémentaire. Si actuellement je sillonne les routes de France, si je rends visite à tout, enfin, si j'essaie de rendre visite à tous les départements, à toutes les provinces françaises, ce qui est un effort à faire, surtout quand par ailleurs on doit être présent dans une circonscription et que l'on doit également assumer les responsabilités de la gestion de la capitale de la France, c'est bien parce que j'estime qu'un effort considérable est nécessaire actuellement pour mobiliser et surtout pour rendre l'espoir. La situation politique française actuelle est assez particulière. Je ne crois pas qu'on puisse dire actuellement que le Parti communiste soit porteur d'espoir. Je n'en ai pas le sentiment dans l'opinion publique. Il a ses électeurs, ses militants, son organisation, sa doctrine. Je ne crois pas qu'il suscite dans ailleurs que dans ses électeurs, un espoir.
Vous êtes porteur d'espoir, vous ?
Eh bien non, précisément, je trouve que la majorité, c'est une des inquiétudes que j'ai, que la majorité n'a pas su se présenter en tant que porteur d'espoir. Et l'opinion publique, trompée par une extraordinaire démagogie d'une part, de la part du Parti Socialiste, par l'incontestable talent du dirigeant de ce parti, a reporté un peu ses facultés d'espoir sur le Parti Socialiste. Bien sûr, elle sera cruellement déçue, mais il n'en reste pas moins que c'est une réalité politique. Et ce que je m'efforce de faire actuellement, c'est de faire comprendre à mes concitoyens que le gaullisme a toujours été par essence porteur d'espoir, parce qu'il était composé d'hommes et de femmes qui refusaient la facilité et qui voulaient absolument mobiliser leurs énergies pour essayer de résoudre les problèmes. Ça a été vrai, naturellement, le 18 juin 40, où le général de Gaulle a porté l'espoir de la France. Ça a été vrai en 1945, lorsqu'il a restauré la République. Ça a été vrai en 1958, lorsque ces socialistes qui, aujourd'hui, demandent à reprendre le pouvoir, avaient conduit la France au désastre, et qu'on a été le chercher pour restaurer à la fois l'unité nationale, la démocratie, la République. Eh bien, aujourd'hui, où nous sommes à nouveau dans une situation économique, sociale, difficile, et difficile pour longtemps, car il ne s'agit pas d'une crise passagère, il s'agit de données nouvelles de notre situation économique, eh bien, aujourd'hui, je voudrais essayer d'expliquer à mes compatriotes, à mes concitoyens, qu'à nouveau, nous sommes et nous pouvons être porteurs d'espoir, mais non pas dans la démagogie, mais dans le sérieux.
Vous n'avez jamais imaginé une seule fois que vous pourriez faire alliance avec les socialistes, parce qu'il y a dans votre sang un peu de radicalisme qui coule.
Vous savez, tout dépend de ce qu'on appelle les socialistes. Je ne me sens nullement en désaccord avec beaucoup de socialistes. Naturellement, avec tous ceux qui font partie de cette école social-démocrate, qui hélas n'est pas exprimée aujourd'hui en France par le Parti Socialiste, mais qui néanmoins existe, et qui a des ambitions qui, sur le plan social, sont très très proches des nôtres, et qui, depuis qu'elle a évolué sur d'autres plans, comme les problèmes de défense ou d'indépendance nationale, qui nous séparaient dans le temps, mais qui ne nous séparent plus aujourd'hui, est très proche aussi de nous. Mais malheureusement, les dirigeants actuels du Parti Socialiste sont des hommes qui s'expriment à l'intérieur d'un système qui est profondément hostile et opposé à tout ce que représente la majorité en général, et donc le RPR en particulier. Donc le hiatus ou la confrontation ou la difficulté d'entente ne se situe pas avec les socialistes en général, elle se situe avec les dirigeants socialistes qui ont fait un choix et une option politique d'une nature différente et qui se sont manifestement trompés, puisqu'ils ont tout misé et tout joué sur l'alliance avec un parti, le Parti communiste, qui aujourd'hui leur fait défaut.
Vous avez rencontré le président de la République, des choses ont été dites, l'aspect humain m'intéresse, est-ce un ami que vous avez vu ?
Sans aucun doute. Sans aucun doute. Je n'ai pas du tout l'intention de faire un commentaire sur la conversation que j'ai eue avec avec le président de la République.
Je vous parle de l'ami.
J'ai indiqué simplement, de la façon la plus claire, en sortant, que cet entretien avait été particulièrement confiant et que cela m'avait fait plaisir, et ça traduisait tout à fait la nature du climat qui était celui de notre entretien. Vous savez, je connais M. Giscard d'Estaing depuis longtemps. J'ai été associé de très près à son action dans des moments difficiles, notamment ceux de l'élection présidentielle, où j'avais fait un choix qui n'était pas un choix facile, en soutenant sa candidature lorsque j'étais ministre de l'Intérieur. Et par conséquent, il y a des liens entre le président de la République et moi que même quelques divergences de vues ou d'appréciations, comme celles qui se sont révélées lorsque j'étais Premier ministre et m'ont conduit à mettre fin à mes fonctions, n'effacent pas pour autant.
En sortant de l'Élysée, vous avez dit « j'ai été compris, c'est déjà une réflexion gaullienne ».
Je ne sais pas si c'est une réflexion gaullienne, c'était une impression spontanée en tous les cas. J'ai dit que je croyais. Je ne veux pas faire de procès d'intention, ni me substituer à la réflexion du chef de l'État. J'ai dit que j'avais eu le sentiment d'avoir été entendu et que je n'avais pas eu l'impression d'avoir parlé dans le désert.
Vous avez maintenant demandé audience à Raymond Barre. Vous comprendra-t-il, lui ?
Écoutez, je le souhaite. Vous savez très bien que J'ai des divergences d'appréciation sérieuses en matière de politique économique et sociale avec le gouvernement de M. Raymond Barre. Et c'est naturel dans le contexte politique, démocratique et parlementaire qui est le nôtre. Ces réserves, je les lui ai dites, et j'ai eu l'occasion également d'en faire part, chacun les connaît. Et nous ne sommes pas les mandataires du gouvernement, nous ne sommes pas ce qu'on appelait jadis, de façon d'ailleurs tout à fait erronée, des godillots susceptibles de soutenir n'importe quelle action gouvernementale. Lorsque nous estimons qu'il y a une action qui n'est pas conduite comme il serait souhaitable qu'elle le soit, eh bien nous le disons. Mais cela ne m'empêche pas d'avoir, pour Raymond Barre sur le plan personnel, des sentiments d'amitié qui ne sont pas du tout de circonstances. Et de me souvenir en particulier que Raymond Barre, lorsque j'étais Premier ministre et qu'il était mon ministre du commerce extérieur, m'a servi et bien servi.
Il y a trois mots qui mériteraient peut-être d'être éclairés par vous. Sont tolérance, amitié et subjectivité. Avez-vous une définition à proposer pour la tolérance ?
Vous savez, je me méfie énormément des définitions. Énormément.
Êtes-vous tolérant ?
Énormément. Écoutez, je crois l'être. On me qualifie souvent d'intolérance. De même qu'on dit que je suis un homme de droite. Je dirais simplement que dans ce domaine, il suffit à ceux qui veulent en témoigner sérieusement, d'aller chez ceux qui me connaissent le mieux, c'est-à-dire en Corrèze, chez mes électrices et mes électeurs. Et si vous essayez d'expliquer là-bas à des gens, je le répète, qui me connaissent bien, qu'ils votent pour moi ou qu'ils ne votent pas pour moi, ils seraient fort étonnés si vous leur disiez que je suis quelqu'un qui n'est pas tolérant. Car je considère pour ma part que la tolérance est une des nécessités les plus fondamentales de la vie en société. Et c'est aussi l'une des marques de la force et de la dignité de l'homme. C'est une des choses qui caractérise l'homme, si j'ose dire, par rapport à la bête. Et c'est une, je ne dirais pas une vertu, mais une qualité qui, à mes yeux, est essentielle. On ne peut pas être un homme de cœur et de qualité si l'on n'est pas quelqu'un de tolérant. Le reste, ce sont des apparences.
Alors maintenant, l'autre mot, l'amitié, pour un ami dont vous êtes sûr, bien évidemment, feriez-vous pour le sauver? Et s'il n'y avait pas d'autre moyen, un faux témoignage?
Écoutez, c'est un petit jeu également facile que ce type de question. Et la notion d'amitié n'est pas la même pour un homme d'État, pour quelqu'un qui assume des responsabilités. Et plus elles sont élevées, et plus la chose est exacte, et je dirais pour quelqu'un qui n'assume pas de responsabilité fondamentale. J'ai beaucoup d'amis. J'ai même des amis très sûrs, qui, le cas échéant, feraient beaucoup pour moi, et pour qui je ferais beaucoup. Je ne sais pas si je ferai un faux témoignage, c'est pas le problème. Ne s'est jamais posé à moi, et tout dépendrait de la nature des choses, mais pour qui je ferais beaucoup. Mais il faut que vous sachiez qu'à partir d'un certain niveau de responsabilité, cette notion d'amitié doit forcément s'estomper. Et par conséquent, je dirais presque disparaître. Et que lorsqu'on est investi, ce qui n'est évidemment pas mon cas, de responsabilité alors tout à fait éminente, eh bien l'amitié ne peut plus compter et ne doit plus compter. César disait déjà « Je vous étonnerai par mon ingratitude ». On peut naturellement trouver cette phrase un peu choquante. Elle est pourtant naturelle de la part d'un homme d'État.
L'objectivité, cela sert-il à...
Tout ceci parce qu'on ne doit jamais faire passer, naturellement, les intérêts particuliers avant l'intérêt général. Et que l'amitié peut conduire à faire passer l'intérêt particulier avant l'intérêt général.
On comprendra déjà que vous êtes un homme politique au plus haut sommet. Car...
Non, je parle de ceux qui assument la responsabilité au plus haut niveau.
Non, mais parler de l'amitié comme vous l'avez fait, c'est bien décortiquer le mot et le mettre à sa véritable portée. Et je crois que c'est difficile d'en parler comme vous l'avez fait. Mais je crois que les hommes politiques, s'ils sont sincères, ne peuvent le faire que comme ça. Bon, il y a maintenant l'objectivité. Sert-elle à atteindre ses objectifs? C'était un mot de Gouffe de Murville, je crois.
L'objectivité, il faudrait savoir ce que cela recouvre. Chacun a sa propre objectivité. Et c'est une notion extraordinairement abstraite, car tout dépend du cadre dans lequel on la situe. Et notamment pour ceux, et c'est le cas de beaucoup d'hommes politiques, qui adhèrent à une doctrine et laquelle peut être très floue, ou au contraire très contraignante. Et l'objectivité peut être totale à l'intérieur d'un système qui les conduit en réalité à être extraordinairement subjectif. Et donc l'objectivité est une notion très très abstraite. Vous savez, vérité en deçà, erreur au-delà.
Vous avez combien de temps pour agir vite ?
Tout dépend de ce que je souhaite faire. Je considère en tous les cas que lorsqu'on a pris une détermination ou une décision, le temps est un facteur qui compte énormément et qu'il faut l'économiser au maximum. C'est un facteur qui coûte très cher. Et lorsqu'on nous disait, le vieux proverbe selon lequel le temps c'est de l'argent, eh bien c'est tout à fait exact.
Mais j'ai l'impression que vous tournez provincial, vous en persuadez du caractère grave de la situation politique.
Parfaitement, je trouve une opinion publique, autant que je puisse le voir. Vous savez, mes tournées, j'ai souhaité les faire, non pas dans les bureaux, mais dans la rue. L'une des choses les plus importantes, à mes yeux, pour un homme politique, c'est d'essayer de bien sentir et de bien comprendre ses concitoyens, ce qui est extraordinairement difficile pour un homme politique. Et je dirais quasiment impossible, et qui exige en tous les cas que l'on sorte de ses bureaux, que l'on sorte des rapports, des dossiers au travers desquels la vérité est mise un peu comme dans des éprouvettes, scientifiquement élaborées, mais hélas tout à fait hors du réel. Alors, la vérité, il faut aller la chercher dans la rue, sur les marchés, dans les magasins, au contact des gens, dans les usines, dans les exploitations, dans les ateliers. C'est ce que je m'efforce de faire, c'est très très enrichissant. On apprend souvent beaucoup plus sur une situation, sur un problème, par un simple regard, par la manière dont on vous serre la main, par un comportement sympathique ou antipathique d'ailleurs, qu'en lisant de longs dossiers. Et quand l'exercice se répète un certain nombre de fois et qu'on a un minimum de sensibilité, eh bien on se rend beaucoup mieux compte des choses. Et c'est vrai que je me suis rendu compte dans ces tournées qu'il y avait une espèce d'interrogation de l'opinion publique qui se demandait après tout ce qui convenait pour la France de demain et quels étaient les choix qui devaient être faits. Et c'est la raison pour laquelle j'essaye d'expliquer encore et de sensibiliser et de mobiliser.
Vous êtes de type provincial et vous êtes maire de Paris. Il n'y a pas là une certaine ambiguïté ?
Ah, vous savez, écoutez, ça, j'ai fait ma campagne quand j'ai décidé d'être candidat à Paris. Et je l'ai faite aussi, comme aujourd'hui je vais dans les provinces. C'est-à-dire, j'ai fait une campagne dans la rue. Certains de vos confrères ont appelé ça une campagne à la corrézienne, n'est-ce pas ? Mais je veux dire par un contact permanent. Et je me suis aperçu d'une chose. C'est que je n'avais jamais rencontré autant de Corréziens qu'en faisant ma campagne à Paris, et je ne parle pas des représentants de tous les autres départements ou provinces françaises. Des Parisiens, il y en a très peu.
Toute la province est à Paris.
Extrêmement peu. Paris est la synthèse de la province. Et d'ailleurs, j'avais cru longtemps que Paris était une ville, essentiellement une ville et rien qu'une ville. Et pendant cette campagne, d'une part, depuis que je m'occupe de Paris avec de plus en plus de passion, signal, parce que c'est passionnant, je m'aperçois que Paris, c'est une succession de villages, de communautés, d'hommes et de femmes qui sont pour l'essentiel des provinciaux. Et cette grande ville qui peut irriter ou au contraire apeurer un peu celui qui la survole ou qui la regarde d'un peu loin ou qui la voit au travers des salons, est en réalité extraordinairement française, extraordinairement provinciale. Et en tant que provincial, car c'est vrai que je le suis, je ne vais pas dans les salons, je ne vais pas dans les dîners en ville, je n'ai jamais participé aux cocktails ou à toutes ces choses. En tant que provincial, c'est vrai, je ne me sens pas du tout dépaysé à Paris, je dirais au contraire. Et je trouve tout à fait légitime et normal que Paris soit dirigé par un provincial. Ce serait le reste, ce serait le contraire qui m'étonnerait.
Jacques Chirac, face à la désunion de la gauche, peut-on imaginer une communion solennelle de la majorité ?
Vous savez, la gauche est désunie, accessoirement pour des raisons de doctrine, je n'y crois pas beaucoup.
Ce sont les leaders eux-mêmes qui le disent.
Oui, mais je dis accessoirement pour des raisons de doctrine, ce que je ne crois pas beaucoup, mais fondamentalement pour des raisons tenantes à la réalité du pouvoir. Monsieur Mitterrand veut la réalité du pouvoir dans une union de la gauche qui aurait gagné les élections et qui gouvernerait ensemble. Monsieur Marché veut la réalité du pouvoir et naturellement il y a là un fossé qui se creuse et qu'il est extrêmement difficile de combler. Il n'en va pas du tout de même dans la majorité. La majorité a l'habitude de gouverner ensemble depuis 20 ans. Elle sait parfaitement comment on fait pour gouverner ensemble. Et donc, elle n'a pas de ces problèmes ou de problèmes de cette nature. Naturellement, elle a des questions de divergence de vue en sens sain sur la manière de régler les problèmes, et notamment les problèmes économiques, les problèmes sociaux. Naturellement, elle peut avoir des divergences d'appréciation sur la politique étrangère, sur la politique de défense. Mais ce sont des divergences qui, je dirais, ont un caractère aussi enrichissant qu'il peut être nuisible s'il est excessif, car cela permet de progresser, de se concerter, etc. Donc, il n'y a pas de divergence profonde au sein de la majorité, et la communion à laquelle vous faites allusion et à laquelle tout le monde s'emploie aujourd'hui pour qu'elle soit réelle et effective, se fait sans beaucoup de difficultés.
Vous avez le goût de la franchise, alors soyez tout à fait franc. N'êtes-vous pas un peu agacé parfois par la célébrité rapidement acquise de Raymond Barre ?
Écoutez, véritablement, ce qui pourrait m'agacer, c'est que le chef du gouvernement de mon pays n'est pas de célébrité. Car véritablement, cela prouverait simplement que le gouvernement ne compte plus beaucoup et que, par voie de conséquence, la France ne compte pas. Car le Premier ministre, naturellement, dans le cadre des orientations que lui donne le chef de l'État, parle au nom de la France et dirige les affaires de la France. Il est donc indispensable qu'il ait, appelez ça de la célébrité si vous voulez, le mot n'est peut-être pas exactement ce qu'il faut, mais disons une notoriété.
Vous n'aimez pas le mot célébrité ?
Non, parce que ça a un petit côté farceur, mais disons notoriété. Mais il n'y a pas de conflit d'interprétation, n'est-ce pas, entre nous sur ce point. Mais il est indispensable que le Premier ministre ait une notoriété. Monsieur Barre l'a acquise, et elle est nécessaire. Et donc je m'en réjouis. J'imagine mal que je puisse me réjouir pour mon pays si le chef de son gouvernement ne représentait rien.
Et sans la politique, vous seriez, vous, Jacques Chirac, un être sans vie, désemparé ? Parce que vous vous donnez corps et âme vous à savez, ce métier, car vous le considérez comme un métier.
Vous savez, je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout ce que je serai. On ne se refait pas. Je n'ai pas eu à l'origine l'idée de faire de la politique. Je faisais une carrière purement administrative. J'avais une ambition qui était très clairement définie, et qui était d'être directeur des transports aériens en 1966. Et puis, M. Pompidou m'a demandé d'être candidat, ce que j'ai fait par respect pour sa volonté. J'ai été élu, il m'a fait entrer immédiatement au gouvernement sur un strapontin, c'est-à-dire un poste de secrétaire d'État. Et puis, naturellement, j'ai continué. Je suis parfaitement satisfait des responsabilités que j'ai assumées ou que j'assume aujourd'hui.
Par qui êtes-vous fasciné en ce moment ? Des hommes vous ont fasciné, De Gaulle, Georges Pompidou ?
Oui, je ne suis pas fasciné.
Il n'y a pas de fascination.
Je ne suis pas très sensible à la fascination. Je ne me suis jamais senti l'âme du petit oiseau en face du serpent. Non, il y a des hommes que j'admire. Il y a des hommes que j'ai beaucoup admirés, comme le général de Gaulle. Il y a des hommes que j'ai beaucoup aimés et admirés, comme Georges Pompidou. Voilà.
Vous êtes fasciné quand même par le pouvoir. Et je n'en reviens pas au livre, c'est simplement la condition d'un homme politique.
On le dit, si j'avais été, je le répète, fasciné par le pouvoir, tout dépend ce que l'on appelle être fasciné par le pouvoir. Le pouvoir s'exerce à un certain niveau. Je l'ai exercé à un niveau qui n'était pas le plus important, mais qui était néanmoins très important, puisque c'était celui de Premier ministre. Si j'avais été fasciné par le pouvoir, eh bien, je serais resté Premier ministre.
Mais vous avez une petite idée de votre destinée ?
Vous savez, j'ai une seule idée actuellement, et elle est parfaitement ancrée dans mon esprit. Rien ne pourra m'en faire démordre. C'est de faire le maximum pour gagner les prochaines élections, ou pour participer à la victoire de la majorité lors des prochaines élections. Voilà.
Vous trouvez tout à fait normal que l'on vous pose tant de questions, que l'on s'inquiète tellement de votre avenir, de votre destinée, car c'est vrai, à 42 ans, vous étiez Premier ministre, cela devrait combler tout homme qui a des ambitions politiques. Or, on veut toujours plus de vous, on exige plus de vous, comme si vous exigiez vous-même plus de vous.
Oui, il est naturel, quand on a pris des responsabilités politiques, qu'on les assume aussi longtemps qu'on le peut. C'est-à-dire pas trop. tout est fonction, bien sûr, de ses capacités physiques et intellectuelles. Et je ne suis pas encore, quelles que soient les fonctions que j'ai remplies, à l'âge de la retraite. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais souhaité servir, que j'étais actuellement inquiet, et donc que je souhaite poursuivre une action qui, à mes yeux, est une action favorable pour l'avenir de la France.
Vous n'êtes pas à l'âge de la retraite, mais le mot retraite vous occupe quand même parfois. Vous pensez à une autre vie, à un autre temps?
Non, non. Je ne pense pas du tout à la retraite. J'ai encore le temps pour cela. Si l'âge de la retraite n'est pas abaissé, j'en ai encore pour 20 ans, sinon j'en ai encore pour 15 ans. Bien qu'il n'y ait pas d'âge de la retraite pour les hommes politiques, je souhaite ne pas changer d'avis d'ici là et la prendre en temps voulu, c'est-à-dire suffisamment jeune pour pouvoir faire autre chose et surtout laisser la place à ceux qui, à ce moment-là, auront sans aucun doute plus de compétences et de titres à exercer les fonctions. Pour le moment, je ne m'interroge pas sur ce point.
Quel est l'âge de départ d'un homme politique?
Tout dépend de sa condition physique et intellectuelle. Il n'y a pas d'âge de départ. Le général de Gaulle est parti à un âge avancé et ça a été très regrettable pour la France, même s'il a eu raison de partir, puisqu'il avait été désavoué par le peuple français.
Avec Dessy, Jacques Chirac, on n'en finit pas de refaire le monde. Avec de la fiction, on s'obstine à ne pas voir la réalité. Cela, je le sais, mais pourtant, employons Dessy et puis faisons un peu de fiction. Si tout va mal dans l'Union de la gauche, si l'amitié craque dans les rangs de la majorité, peut-on imaginer de nouveaux attelages? Par exemple, le président de la République avec François Mitterrand et puis Jacques Chirac avec Georges Marchais.
Ça, c'est tout un programme. Ça veut dire que je n'y avais pas spontanément pensé.
Je l'imagine.
Mais je n'imagine pas non plus que le premier attelage soit crédible, contrairement à ce que disent certains qui font, à mes yeux, plus de politique fiction que de réflexion réaliste dans ce domaine. Et d'ailleurs, je dois dire que le comportement de François Mitterrand et que toutes ses déclarations, encore celles qu'il faisait hier, prouvent effectivement que ce attelage est totalement irréaliste. Vous savez, nous ne sommes plus sous la 4e République. On pouvait imaginer sous la 4e République que le représentant d'un parti libéral s'associe avec le représentant du Parti Socialiste, qui était à ce moment-là un parti social-démocrate. Ça ne donnait d'ailleurs généralement rien de bon. Car il y avait même en ce temps des contradictions qui faisaient qu'on ne pouvait pas réellement gouverner ensemble. Alors on gérait cas à cas pendant quelques mois et puis on changeait de combinaison, on changeait de coalition. Enfin bref, on conduisait la France tout doucement vers sa perte. Aujourd'hui, les institutions permettent une certaine stabilité, ce qui ne veut pas dire qu'elles peuvent accepter des compromis de cette nature. Et puis de plus, aujourd'hui, la différence qui existe entre un homme comme M. Giscard d'Estaing et un homme comme François Mitterrand est une différence alors considérable sur le plan des conceptions. Et même si pour des raisons tactiques, on pouvait imaginer une telle alliance, eh bien cela serait insusceptible de permettre de conduire la France à quelque chose de bon. Ce serait alors là certainement une conduite qui nous amènerait au chaos.
Lorsque vous attaquez l'Union de la gauche...
D'ailleurs, vous savez, le compromis en politique est toujours une mauvaise chose. Je n'ai pas, on le sait, de tendresse particulière pour les communistes, mais ils ont au moins cette caractéristique et cette qualité de refuser, eux aussi, le compromis. Et je crois qu'en politique, c'est une vertu essentielle.
Vous êtes venu à ma question, car en effet, je voulais vous dire que lorsque...
Ce n'est pas une avance, n'est-ce pas, pour le second attelage dont vous parliez tout à l'heure.
Mais lorsque vous attaquez l'Union de la gauche, vous en prenez à François Mitterrand, vous égratignez rarement Georges Marchais, qui, je le crois, a de l'estime pour vous.
Écoutez, on m'a accusé pendant longtemps de faire de l'anticommunisme primaire. Je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire, parce que je constatais que l'opposition nous injuriait dans les termes les plus définitifs et parfois les plus vulgaires, et c'était considéré comme tout à fait normal, mais dès qu'on faisait une attaque contre l'opposition, alors on devenait primaire. Je ne sais pas pourquoi, peu importe. Mais je ne réserve pas mes flèches au seul Parti Socialiste. Je considère qu'actuellement, le Parti communiste étant ce qu'il est, a conduit une tactique indiscutablement astucieuse et dont il va recueillir des fruits positifs, et que M. Mitterrand, lui, porte une responsabilité. Et puis, il n'a jamais caché son objectif, le Parti communiste. Naturellement, par tactique, il a fait croire qu'il avait changé, il a expliqué un certain nombre de choses pour séduire. Mais enfin, rien d'excessif par rapport au comportement naturel d'un parti politique. En revanche, M. Mitterrand, lui, a élaboré une stratégie qui pèse lourd sur l'avenir et le destin de la France. Et il a commis une erreur fondamentale et qui peut nous conduire à une aventure très grave pour notre avenir. Et donc, il porte une responsabilité infiniment plus grande. Lui, s'est dissimulé, en quelque sorte. C'est tout à fait différent.
À la télévision, lorsqu'ils y viennent, par qui êtes-vous séduit ? Par François Mitterrand ou par Georges Marchais ? Je dis bien, je considère le téléspectateur que vous êtes à ce moment-là.
D'abord, je vais vous dire très franchement que je ne suis pas séduit. D'ailleurs, je suis séduit par peu de gens à la télévision. Mais je trouve que l'un et l'autre, chacun dans son genre et qui est différent, sont excellents à la télévision.
Comment vous trouvez-vous, vous, à la télévision ?
Eh bien, écoutez, moi, je ne me trouve pas.
D'abord, vous êtes
parce
obligé,
que, en règle générale, je ne me vois pas, étant donné que je suis à la télévision et que c'est la plupart du temps en direct. Mais si j'en crois ce que l'on me dit, je ne suis pas très bon, et pas que je suis trop dur, que... Bon. Enfin, j'ai fait un effort, je viens de changer mes lunettes, vous voyez. Et on me dit que ça va mieux, depuis que j'ai changé mes lunettes. Alors,
là, vous n'avez pas de lunettes. L'audience.
Non, mais là, je ne les ai pas, parce qu'en fait, je ne les porte pas toujours. Enfin, à la télévision, je les porte.
Enfin, vous êtes conscient que le physique a de l'importance à la télévision.
Ça, j'en suis persuadé, oui.
Et vous avez un physique.
Ah oui, comme tout le monde.
Non, mais enfin, mieux que tout le monde, peut-être, parmi les hommes politiques.
Oui, écoutez,
vous
me permettrez de ne pas porter un jugement direct sur ce point.
Vous êtes sûr de vos atouts. Vous êtes sûr de vos atouts.
Non, on n'est jamais sûr de ses atouts. On n'est jamais sûr de ce... Oui, j'ai une certaine tendance à être sûr de moi. Je ne suis pas quelqu'un de craintif par nature, effectivement.
Quelqu'un de timide, peut-être.
Tout le monde est timide. Tout le monde a sa forme de timidité. Il n'y a que les brutes qui ne le sont pas. Et tout dépend de la manière de l'exprimer, de la façon de le dominer, de l'expérience qu'on a pour cela d'ailleurs, car cela s'apprend aussi à dominer sa timidité. On l'est d'ailleurs plus ou moins, mais tout le monde a une certaine timidité.
Modeste, timide, agressif, pas prétentieux.
Là, vous êtes en train de faire un tableau de moi dont je ne vais pas sortir grandi. Prétentieux, tout le monde l'est un peu, prétentieux.
On avait dit ambitieux, mais...
Ambitieux, tout le monde l'est aussi. Je le crois, tout au moins. Il n'y a que quelques rares contemplatifs qui ne le soient pas. Et prétentieux, tout dépend au niveau auquel on situe l'expression de cette prétention. Tout le monde l'est un peu. Et je mentirais certainement en disant que je ne le suis pas.
Un homme politique doit-il avoir de l'humour ?
C'est préférable, et c'est difficile. C'est une des dernières qualités qui semble rester actuellement aux dirigeants britanniques. Et ils ont bien de la chance d'avoir su la conserver dans les difficultés et dans les crises.
Les Français ne l'ont pas ?
Beaucoup moins.
Vous en manquez ?
Sans aucun doute. Je n'ai pas la prétention, hélas, d'avoir ce sens de l'humour qui permet de dire les choses les plus sérieuses avec une désinvolture qui n'exclut pas la profondeur et la réflexion, mais qui permet certainement de marcher sur le chemin de la vérité de façon plus légère.
Vous êtes-vous reproché parfois d'avoir été trop agressif, trop mordant ?
Oui, sans aucun doute. On se laisse un peu entraîner dans le feu, soit de la conversation, soit du débat public ou privé, cela va de soi. C'est une question de caractère, mais on ne se refait pas. Il est important d'essayer de maîtriser son caractère. Je fais des efforts pour cela. Je fais des efforts.
Vous avez réussi.
Et je trouve même, pour tout dire, que je fais des progrès actuellement, pour rien vous cacher. Enfin, je ne voudrais pas, là encore, porter un jugement sur moi, mais je ne suis pas mécontent des progrès que je fais dans ce domaine actuellement. Mais enfin, tout n'est tout de même pas encore maîtrisé.
Enfin, le succès est venu à l'instant où vous quittiez votre fauteuil de Premier ministre. À ce moment-là, vous avez fait peut-être un examen de conscience et vous êtes devenu quelqu'un d'autre.
Ce que vous dites n'est pas très aimable, n'est-ce pas ? Vous avez l'air de dire que tant que j'ai été Premier ministre, je n'avais aucun succès.
Disons que vous étiez au pouvoir.
Oui.
Et que le pouvoir, parfois, oblige à faire certaines choses.
Oui, c'est vrai.
Et
c'est vrai qu'il est beaucoup plus difficile de conserver une personnalité politique lorsqu'on n'est plus au pouvoir que lorsqu'on y est. Ça, c'est tout à fait évident. Mais je ne peut pas dire, à proprement parler, que le succès soit venu. J'ai continué mon action dans un domaine différent parce que cela tient au fait que j'ai quitté mes fonctions de Premier ministre volontairement pour continuer une action, et non pas du tout parce que j'étais remercié ou parce que j'étais fatigué.
Enfin, si l'on considère d'un peu près les choses, on s'aperçoit que vous êtes toujours à la sauce, ce qui tendrait à prouver que vous avez une foi superbe. Donc vous êtes en mission, vous avez été appelé, peut-être mieux qu'appelé, choisi. Choisi par Dieu, par une ambition. Parce que ça n'est pas votre propre ambition que vous revendiquez. Je crois que vous pensez appelé pour un destin. Comme certains hommes politiques, d'ailleurs.
Je ne prends pas, je ne prétends pas être appelé pour un destin. L'expression est tout à fait hors de ma réflexion.
Mais je crois
effectivement pouvoir servir. Alors j'essaye de servir. Et en fonction du résultat de mon comportement et de mon service, eh bien, l'opinion publique jugera. Vous savez, je vais vous dire une autre chose. Vous parliez tout à l'heure des gaullistes. Et vous me disiez que on ne pouvait pas revendiquer. Je vous ai dit à quel point j'étais d'accord avec vous. Mais il y a tout de même quelques données fondamentales. Pour un gaulliste, l'une des notions, et peut-être la première notion politique, c'est le respect, je dirais, sacro-saint de la souveraineté populaire, du peuple. Pour nous, il n'y a qu'un seul souverain que nous reconnaissions, et c'est le peuple tout entier quand il s'exprime. Alors on peut discuter naturellement de la valeur de ce principe, mais pour nous, il est sacré. Si bien que la notion de destin s'inscrit, et la notion plus modeste ou plus vulgaire de carrière politique, s'inscrit dans un contexte tout à fait différent. Nous considérons qu'aucune action politique ne peut être justifiée ou légitime si elle n'a pas été préalablement confirmée ou affirmée par le pouvoir populaire, c'est-à-dire par le scrutin populaire, par l'élection. Lorsque j'ai quitté mes fonctions de Premier ministre, la plupart de mes amis m'ont conseillé de ne pas me représenter en Corrèze. Et on dit, ça va être fatigant, puis il y a un risque, c'est pas une bonne circonscription, tu quittes les fonctions de Premier ministre, ça peut déplaire, etc. Ne te représente pas. Attends les prochaines élections. Pour un an, ça n'a pas d'importance, et tu pourras te consacrer, etc. Et ça ne m'est pas venu un seul instant à l'idée. Car il ne m'est pas venu à l'idée que je puisse mener une action politique sans avoir préalablement passé le test ou le jugement de ceux de qui je tenais ma légitimité propre, c'est-à-dire des électrices et des électeurs de la troisième circonscription de la Corrèze. Et sans elles ou sans eux, je considère que je ne pouvais et je ne devais rien faire. Pour nous, c'est tout à fait fondamental. Donc, nous ne nous sentons pas du tout, ni les uns ni les autres, investis d'une espèce de destinée quelconque. Nous estimons d'abord et avant tout essentiel d'être promus par un scrutin populaire qu'il faut préalablement mériter.
Jacques Chirac, vous avez parlé, et vous parlez très souvent, à la radio et à la télévision. Avez-vous oublié ou n'avez-vous pas su dire une chose tout au long de ces interventions? La chose, on se dit toujours, tiens, j'aurais dû dire ceci, j'aurais dû dire cela, je n'ai pas su dire qui j'étais.
Eh bien, écoutez, j'ai réussi jusqu'ici, ou presque, à dire ce que je pensais, à dire ce que je voulais, à dire ce que je critiquais, et à ne pas importuner les auditeurs ou les téléspectateurs par ni mes états d'âme, ni mes problèmes personnels, mes goûts personnels, qui sont mon jardin secret et dont j'entends bien qu'il le reste.
Vous avez souhaité maîtriser le futur, mais arrivez-vous à maîtriser votre présent?
Ça, c'est pas tellement facilement. Et si vous interrogiez ma femme ou mes filles, qui n'ont pas une vie facile en raison de mes absences et de mes fonctions, elles vous diraient que je le maîtrise très mal, et elles ont probablement raison. Mais là aussi, j'essaye de faire des efforts.
Il y a, vous le savez, Jacques Chirac, une cuisine électorale. En tout pays, en toutes circonstances, vous n'avez pas de recette. Vous foncez. Vous savez. Vous croyez.
Écoutez, je ne prétendais pas que je sais. Je vous demande de ne pas croire que je fonce, c'est un petit peu déplaisant, n'est-ce pas? Ça a l'air d'indiquer, je suis sûr que vous ne lui donnez aucune connotation déplaisante, mais ça a l'air d'indiquer que je fonce dans le brouillard, n'est-ce pas? Et on se réfère plus dans ce cas-là à l'ours qu'à l'animal réfléchi qu'est l'homme, n'est-ce pas? Non, j'ai effectivement une conviction. Et à partir de cette conviction, j'ai fixé une stratégie, j'ai un mouvement avec lequel je travaille et j'entends aboutir à un objectif, et cet objectif, c'est la victoire de la majorité.
Parfois, vous êtes agressif, souvent, on vous donne des coups, parfois, on entend des cris, ils vous concernent, mais de votre côté, on n'entend jamais de plainte. Est-ce parce que vous vous contrôlez ?
Ah, il n'est pas du tout dans ma nature de me plaindre. Je trouve que les hommes sont responsables de leurs actes, et quand je prends un mauvais coup, je me dis que généralement, c'est probablement parce que je l'ai mérité ou que je n'ai pas su l'esquiver. Alors, en tous les cas, qu'il n'y a pas lieu à se plaindre.
Vous avez encore 3 mois, alors que doit-on savoir de vous avant le combat ?
Que je suis fermement résolu et déterminé à le gagner.
Vous aimez la musique ?
Oui, contrairement à ce qu'on dit, j'aime la musique. J'ai d'ailleurs pris comme directeur des affaires culturelles à la mairie de Paris un musicien, M. Landowski, et je lui ai...
L'un des plus brillants.
Oui, un homme brillant, et j'ai lui donné comme instruction, en accord d'ailleurs sur ce point avec le chef de l'État et le gouvernement, de réaliser à Paris une chose qui manque, et qui manque cruellement, et qui est un grand auditorium, je crois qu'on appelle cela comme ça, c'est-à-dire une grande salle de concert avec les annexes que cela implique, et que nous allons faire sur le carreau des Halles, dans ce que l'on appelle le bâtiment Lescaut, ce bâtiment qui n'existe pas encore et qui existera pour cela le long de la rue Lescaut, et qui, non loin du Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou, qui est la grande chose qui aura été faite dans cette seconde moitié du XXe siècle en France, donnera à Paris les moyens d'une politique culturelle moderne.
Je vous parlais de la musique, car
surtout
demain...
Surtout, il sera à 2 pas de l'IRCAM, de Boulez, qui permettra d'avoir, sur le plan de la création, un élément également tout à fait essentiel sur ce plan.
Jacques Chirac, pardon, Jean-Luc Hesse, j'ai oublié de vous parler de poésie, et je sais qu'il y avait du Pierre Segers dans l'air. Vous allez peut-être me dire un poème ?
Non, je ne vais pas vous dire un poème. Je vais simplement vous dire, parce que malgré le soin que je prends à essayer de ne pas ouvrir trop grandes les portes de mon propre jardin, chacun sait que j'aime beaucoup la poésie. Et je voulais dire que j'ai été très très heureux, car l'initiative effectivement de Segers vient d'être publié un livre tout à fait remarquable sur Paris, ses poètes et ses chansons. Et que je suis... la qualité des choix qui ont été faits dans cette anthologie, je voulais simplement vous le dire, mais c'était pour votre information propre, je ne voulais pas pour autant reprendre l'antenne.
Je ne garde rien pour moi.